Notre Seigneur Jésus, le bon berger, va nous conduire pour que nous puissions recevoir de sa part autant la nourriture, autant convenable, mais en même temps que nous recevions ses saints conseils, son enseignement, ses instructions, ce qui va servir à notre édification, en un mot, tout l'apport spirituel que notre Seigneur veut nous communiquer ce soir, comme autant gens de sa maison, comme enfants de Dieu, comme peuple de Dieu, comme brebis du pâturage dont il est le berger, puisque Jésus est le grand berger des brebis. Il s'est défini lui-même dans l'évangile de Jean comme étant le bon berger. Et en tant que tel, c'est lui qui déclare « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Et il prend soin de donner quelques particularités concernant ces brebis. Elles ne suivront pas la voix des étrangers, mais elles fuiront loin d'eux. Et puis il dit « Mes brebis, je les connais ». Et les connaissant, il rajoute « Je leur donne la vie éternelle ». Nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors où sont ceux qui ont la certitude ce soir et peuvent le déclarer hautement, fortement, avec force, avec vigueur, qui sont brebis de Jésus? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, brebis du bon berger. Or, il arrive que dans la bergerie dont Jésus est le berger, cela peut arriver que dans la bergerie, il y ait des brebis qui sont des brebis souffrantes. Une brebis du pâturage de Jésus peut être d'abord une brebis blessée. Brebis blessée parce que malheureusement, dans la bergerie, il y a une brebis ou un bélier qui lui est donné malencontreusement un mauvais coup de tête. Un coup de tête de bélier, ça fait mal, hein? Vous avez déjà vu deux béliers lorsqu'ils s'affrontent? Ah ouais, ouais, ils prennent du recul. Et après, une fois qu'ils ont pris le recul, je ne sais pas s'ils mesurent comment ils mesurent la distance à cause des pas, mais ils prennent une certaine distance et après, ils bondissent. Et ils frappent tête contre tête. Et je me demande comment la bête fait pour mettre de si violents coups de tête. Et à un moment donné, à force de prendre des coups de tête, si vous regardez bien, il y a un qui commence à chanceler, et après, soit il quitte le combat ou il tombe d'épuisement. Hein. Mais au sein du troupeau, ça peut arriver qu'une brebis de Jésus soit blessée parce qu'elle a reçu un coup. Jésus la connaît, la brebis. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a les soins appropriés. Peut-être une brebis de Jésus ce soir, peut-être dans le troupeau, mais passant par un moment difficile, elle serait peut-être fatiguée. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu soit fatigué. Fatigue physique, fatigue morale, ou même fatigue spirituelle. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est une brebis à exclure du troupeau, au contraire. Au contraire, lorsque le Seigneur voit la brebis avec ses particularités, je crois qu'il est capable de lui donner des soins appropriés et lui accorder un petit peu plus d'attention que d'habitude. Moi, je suis un père de famille, si mon enfant passe par un moment difficile dans la santé et que j'ai les éléments pour lui donner des soins afin qu'il s'en sorte, eh bien, je fais rapidement le nécessaire pour que ça aille mieux pour lui. Alors si moi, en tant que père, j'en suis capable, à plus forte raison, notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que ce soir, dans le troupeau, il y a une brebis qui est fatiguée, donc j'ai dit fatiguée, lassée même, peut-être découragée, que sais-je, le Seigneur sait. Mais le même qui est le bon berger, c'est celui qui est aussi défini, comme dans l'évangile de Luc, comme étant le bon samaritain. Bon samaritain, puisque la parabole explique qu'un homme a été rencontré par des brigands qui l'ont roué de coups et l'ont laissé à demi-mort. Et puis dans la parabole, il est parlé d'un docteur de la loi qui passait là et qui, l'ayant vu, est passé outre. Lui, un lévite, est arrivé aussi à ce même endroit. Il a vu le malheureux roué de coups à terre et il est passé outre. Et voici que un samaritain, autant que vous qui connaissez l'histoire des Saintes Écritures, vous savez que Juifs et Samaritains n'ont pas de relation entre eux. Or, le chemin en question, c'est la route qui mène de Jérusalem à Jéricho. C'était une route dangereuse où il y avait assez souvent des attentats, etc. Et puis c'est là que ce malheureux a été rencontré. Le docteur de la loi nous parlerait en image de ce qui est religieux. Dans ce qui est religieux, on vous fait beaucoup de déclarations, mais fort souvent, il n'y a pas de miséricorde. Et s'il n'y a pas de miséricorde, à plus forte raison, il n'y a pas de compassion. Le Lévite en image nous parlerait des pratiques religieuses. Un peu sur le même principe. Et quand le bon samaritain arrive à proximité de celui qui était là, la Bible nous dit qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté et lui a prodigué les premiers soins. Il a pansé ses blessures avec de l'huile et du vin. Drôle de façon, vous me direz-vous, de panser des blessures. Et on peut aussi se poser la question, en nous comparant à lui, car si moi je pars en voyage, parce que le Samaritain voyageait, moi quand je voyage, je ne mets pas dans ma valise de l'huile et du vin. Je mets mes effets de toilette, etc., et tout ce dont j'ai besoin pour être utile là où je serai. Mais il ne me viendrait pas l'idée de mettre de l'huile et du vin dans ma valise. Mais lui, il a pensé. J'avais dit que le Seigneur Jésus-Christ a toujours les éléments appropriés pour donner les soins à bon escient. Alléluia. Et après qu'il eut fini de panser les plaies du malheureux, il l'a mis sous sa monture, il l'a mené dans l'hôtellerie. Et il a donné des directives le concernant. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Je l'avais dit que le Seigneur ne nous dit pas « je te donne les soins et puis après débrouille-toi ». Mais il s'assure que nous allions de mieux en mieux jusqu'à ce que le temps de la convalescence amène la guérison et qu'après on reprenne la course et la marche avec lui. Que Dieu soit béni. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un tel berger en la personne de Jésus? Mais ce bon berger, il est là ce soir pour toi, mon frère. Il est là ce soir pour toi, ma sœur. Et il va t'amener sur un terrain divin en considérant cette lecture que nous allons partager maintenant dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, à partir du verset 12. Hébreux 12, 12. « Et au travers de ce que nous allons partager, notre Seigneur, dans sa grâce, comme il le fait merveilleusement, va nous enseigner. Hébreux 12:12, où l'auteur de l'Épître mentionne ceci sous forme d'exhortation. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Mains languissantes, les mains dans les Saintes Écritures, vous le savez, nous parlent du service pour Dieu et pour Jésus-Christ. Les genoux, vous le savez bien, ça nous parle de la prière. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Alors, nous comprenons que dans ce qui est dit, il y a le service, il y a la prière et il y a la marche. Vos pieds, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et puis, l'exhortation continue, destinée aux Hébreux, mais ce soir c'est à nous que c'est destiné. Recherchez la paix avec tous, et là est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et puis l'exhortation continue, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a à peu près une quinzaine de jours, dans la méditation du dimanche matin, pour ceux qui étaient présents, nous avions considéré justement ce verset 15 et particulièrement, nous avons parlé de l'amertume et de ses conséquences. Mais ce soir, ce n'est pas le sujet. Nous avons vu dans ce partage les cinq causes de l'amertume et au travers de cela, Dieu a permis que son peuple, ses enfants ou ceux qui étaient justement concernés par ce sujet, certainement on est tiré de l'édification et dans l'enseignement, mais ce soir, c'est pas le but. Le but de ce soir, c'est de nous arrêter sur ce verset 14. Recherchez la paix. La paix, vous savez ce que c'est la paix. La paix, c'est à partir du moment où j'ai expérimenté la grâce de Dieu et le salut, comme cela m'est révélé ou nous est révélé dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5 et au verset 1er, où le Saint-Esprit, dans la bouche de l'apôtre, destine ses paroles à l'église des Romains, où il est dit, « Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » À qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes? La paix, la grâce, avec Dieu, par Dieu, mais étant réconcilié par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, lorsque nous comprenons cela, frères et sœurs en Christ, on sait ce que c'est que la paix. Mais après, il est parlé et la sanctification. Et quelquefois, il arrive que les enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent ce verset, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est à ce moment-là que certains se posent la question, qu'est-ce que c'est que cette sanctification qui risque de me priver de voir le Seigneur? C'est quelque chose qui, quand même, est assez délicat. Eh bien, justement, le Seigneur Jésus-Christ, qui lit dans les cœurs, qui sait, dans ce cadre-là, où on est chacun, ou comment chacun d'entre nous pourrait, en considérant ce verset, non seulement savoir en tirer profit, mais pour tirer profit, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot. Ce que ce mot veut dire. Eh bien, c'est justement le travail pastoral de ce soir qui va nous amener sur le terrain de la sanctification pour que Dieu nous éclaire là-dessus, pour ceux qui manquent de clarté parce qu'ils n'ont pas la compréhension, ou ceux qui se posent des questions et s'interrogent, ou j'irai même plus loin, pour ceux que ce verset biblique pourrait même effrayer. Et quand ça vous effraie, je vous assure que c'est quelque chose qui n'est pas du tout à votre actif. Parce que dès lors que vous le lisez, eh bien, il y a comme une espèce de crainte qui arrive. Donc, la parole de Dieu n'est pas destinée à nous donner de la crainte, mais elle est destinée à nous donner de l'assurance. Amen. Alors, nous allons regarder déjà, derrière ce mot sanctification, qu'est-ce que Dieu veut que je saisisse et que je comprenne. Alors, c'est pas compliqué. Si je regarde le mot sanctification, dans son sens tout à fait littéral, je dis, sanctification, c'est l'action de sanctifier. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'études pour ça. Mais oui, c'est simple. Mais derrière le mot sanctifier, j'ai besoin de clarté, de connaissance. J'ai besoin de repères pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Alors, si vous regardez avec moi déjà dans l'Ancien Testament, nous allons trouver que déjà ce mot était employé et Dieu, dans les directives qu'il donnait à Moïse, permettait, par exemple, dans Lévitique 27, versets 14 à 15, que ce mot soit mentionné dans les directives données par l'Éternel à Moïse dans un cadre précis. Lévitique 27, regardez avec moi, mes bien-aimés, Lévitique 27, verset 14. L'ensemble du chapitre 27 nous parlerait, ou parle plutôt, des lois que Dieu donne à Moïse au sujet de la consécration autant des personnes que des objets. Mais regardez le langage que Dieu emploie lorsqu'il parle à Moïse à partir du verset 14, Lévitique 27, 14. Si quelqu'un, dites avec moi, sanctifie, si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. Et l'on s'en tiendra, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait déjà de, ou entrevoyait la pensée de la sanctification, mais en l'incluant dans l'idée de la consécration. Vous êtes toujours d'accord? Bien, alors, pour aller plus loin, on peut voir aussi dans l'Ancien Testament ce que Dieu va déclarer lors de la dédicace du temple de Jérusalem construit par Salomon. Cela se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 16. 2 Chroniques, le chapitre 7 et au verset 16, Dieu va employer dans ce qu'il va déclarer dans la réponse qu'il va donner à Salomon, Dieu dira, maintenant Salomon, je choisis et je sanctifie. Je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là, quoi? Mes yeux et mon cœur. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Donc, alors, concluons et comprenons que ce que Dieu choisit, il le sanctifie. Alors, est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que Dieu t'a choisi? Alors, si Dieu t'a choisi, il t'a sanctifié. C'est-à-dire, il t'a mis à part. Il t'a consacré. Donc, j'ai conclu que la sanctification, ou sanctifier dans le sens biblique, dans ce premier aspect que nous considérerons, ça veut dire séparer ou mettre à part par Dieu, et séparer et mettre à part ou mis à part pour Dieu. Séparer par Dieu et mis à part pour Dieu. Ou, pour aller plus loin, la sanctification, c'est la mise à part ou l'état de séparation pour être à Dieu. Et ce que Dieu choisit, il le sanctifie. Je choisis et je sanctifie. Donc, arrêtons de nous faire du souci, du mouron, de nous poser des questions quant à la sanctification. La sanctification est premièrement, pour moi, l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi, et puisqu'il m'a choisi, il m'a sanctifié. Il m'a mis à part pour que je puisse lui appartenir. Oh, je suis pas toujours conscient. Je suis pas toujours conscient. Et dans ma démarche personnelle, j'aurais toujours tendance à penser que je ne suis pas assez saint. Mais tu seras jamais assez saint. Tu vas aller sur le terrain de l'évaluation, mais tu n'arriveras jamais à voir comme Dieu voit les choses. Tu n'as peut-être pas une bonne tête. Tu n'as peut-être pas fait beaucoup d'études. Tu n'as peut-être pas un QI surdimensionné. Tu n'as peut-être pas fait la Sorbonne. Tes études sont arrêtées à un certain niveau. Mais Dieu t'a choisi et il t'a sanctifié. Alors arrête de te casser la tête. Au lieu de te casser la tête, bénis-le sans cesse. Car c'est lui qui a voulu qu'il en soit ainsi pour toi, pour que tu puisses devenir son enfant. Gloire à Dieu. Alors, la première pensée dans le sens de ce que je viens de vous dire va nous amener à regarder un texte dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et au verset 23. Alléluia. C'est la conclusion de la première lettre. Aux Thessaloniciens, l'apôtre dit que le Dieu de paix, vous sanctifie. Vous sanctifie, qu'est-ce qu'il dit après? Lui-même, c'est son travail, son œuvre. Lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ma sanctification, celle dont je suis l'objet, c'est l'œuvre de Dieu le Père. Mais tout entier. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il prend quelqu'un en main, excusez-moi du thème, j'allais parler d'une récitation où le texte dit le père mort, les fils, ils ont commencé à travailler et la leçon du père, ne laissez nulle place où l'amène passe et repasse. Enfin, je ne me souviens plus qui c'est qui a fait cette récitation. Mais ça veut dire que dans ma vie maintenant, il n'y a pas un endroit où la main de Dieu ne passe pas. Tout entier, travaille à ma sanctification. Pour que je sois de plus en plus agréable à ses yeux. Et cette sanctification dont le Père est l'auteur, il ira jusqu'à l'avènement de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que là-dessus, je suis tranquille. Dieu veille. Mais c'est pas parce que Dieu veille que je me relâche. Non, le Saint-Esprit en moi, nous allons le voir tout à l'heure, va m'amener à suivre le même sillon dans la sanctification. De manière que j'ai une conscience, et quand malencontreusement mon pied aurait glissé, ou j'aurais fait quelque chose dans le cadre de la sanctification qui serait maintenant un obstacle ou une tare qu'il constituerait, alors il m'amènerait rapidement sur le terrain où je dois aller trouver le bon berger pour lui demander pardon pour le péché commis. Mais ça n'enlève en rien que Dieu continue à me sanctifier. Pourquoi le Seigneur nous parle ainsi, frères et sœurs en Christ? Parce qu'il arrive malencontreusement que certains enfants de Dieu qui, dans la connaissance, eh bien, quelquefois sont limités, ils sont rapidement, eh bien, confrontés à la culpabilité et ça devient quelque chose de chronique que l'esprit malin, eh bien, tâche d'exploiter à bon escient et il jette du trouble dans les cœurs. De telle manière que certains perdent leur repère et même, ils arrivent à douter de leur salut. Peut-être qu'il y en a ce soir au milieu de nous. Mais mon frère, ma sœur, une fois que tu es entré dans la vie chrétienne, que tu as accepté Jésus comme sauveur, ce n'est pas le fait du hasard qui a fait cela. C'est parce que Dieu avait un plan qu'il avait mis en place pour ta vie. Et une fois que tu as écouté l'évangile, le Saint-Esprit est entré en action, il t'a convaincu de péché, tu t'es repenti, tu t'es converti, tu as accepté Jésus comme sauveur, tu t'es fait baptiser par immersion et tu es placé sur le chemin de la persévérance. Donc tu es en plein dans le plan de Dieu. Dieu t'a sanctifié pour lui appartenir. Je viens de le dire, c'est pas parce que j'ai une bonne tête. C'est pas parce que je suis intelligent. Je suis au même rang que l'apôtre qui peut déclarer, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère de se révéler à moi, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Il s'appelle l'apôtre Paul. Mais avant, il s'appelait Saul de Tarse. Lorsqu'il persécutait à outrance les disciples de Jésus, Dieu l'avait déjà mis à part. Mais lui ne savait pas. Mais quand le temps arrive, eh bien, Dieu accomplit son œuvre et son plan et son dessein le concernant. De manière qu'il va devenir un instrument puissant dans la main de Jésus. Gloire à Dieu. Et nous pourrions prendre de nombreux exemples dans les Saintes Écritures, mais allons plus loin. Allons plus loin en regardant dans ce texte ô combien merveilleux où nous allons voir que la sanctification, notre sanctification, c'est l'œuvre de Dieu le Père. Donc, je refais la lecture avec vous, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc, ma sanctification, ta sanctification, notre sanctification, c'est l'œuvre du Père. Gloire à Dieu. Donc, cela me donne de la joie, me donne de la force, me donne de la vigueur spirituelle et me donne aussi à continuer à combattre, sachant ce que je peux situer derrière le mot sanctification en regardant mon Père. Regardez avec moi maintenant un autre aspect de la sanctification. Nous allons le trouver en regardant Éphésiens, le chapitre 5. Et c'est un texte que je prends lorsque je m'adresse aux mariés quant aux responsabilités qui leur incombent dans le couple. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, donc je vous ai parlé des responsabilités qui incombent aux époux, ce sont des tests que je prends quand je fais les mariages. Marie, que chacun aime sa femme. Est-ce que vous dites amen les frères? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la... Ah, Jésus sanctifie son Église. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église, dites avec moi, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime. Marie, aimez vos femmes. Mais l'exemple, comme Christ a aimé l'Église. Et il va plus loin. dit que Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier par l'eau de la parole. Donc l'Église, Jésus la sépare. Sépare de quoi? De l'esprit qui gouverne le monde. L'esprit qui gouverne l'Église, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus. Le même Esprit Saint qui était en Jésus, c'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui est en toi ce soir. Et au travers de l'enseignement qui t'est dispensé, Dieu t'éclaire quant à la sanctification dont tu es l'objet de sa part. Qui vient de Dieu. Qui passe par Jésus, qui sanctifie l'Église. Donc l'Église, non seulement Jésus l'a bâtie, mais il la sanctifie. Alors quand je comprends ça, mais c'est une garantie pour moi. C'est une assurance pour moi. Et quand je lis « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur », je sais où je situe cette parole et ce que je peux en tirer. C'est une parole qui me responsabilise. Me fait comprendre, Claude, Dieu t'a sanctifié, Jésus sanctifie l'Église, mais ça c'est pour lui appartenir. Et ta responsabilité maintenant que tu le sais, c'est de te séparer, de te sanctifier pour servir ton Dieu. C'est pas te croiser les bras et dire désormais, Seigneur, tu me sanctifies, alors moi, eh bien, je me mets dans un fauteuil Pullman et puis tu vas faire tout. Non, au contraire. Dieu, dans ce qu'il fait de la sanctification, t'éclaire, il te rend intelligent. Il te rend sage. En même temps, il te rend responsable. Ce soir, Dieu nous rend responsables quant à l'enseignement qu'il nous donne. Donc, Jésus sanctifie l'Église, la sépare du monde entier qui gît sous la puissance du malin, des ténèbres et du péché. Le monde ne se soucie pas de Dieu, frères et sœurs. Le monde ne connaît pas Dieu et ils suivent le courant descendant. Ils sont sans froid ni loi, sans frein dans leur égarement. Et je suis d'accord avec l'apôtre lorsqu'il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ce sont les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Mais nous, Dieu nous a éclairés. Il nous a sanctifiés. Il nous a enseignés. Alors, nous savons maintenant dans quel camp nous sommes. Hein? En nous amenant à expérimenter son salut, il nous a sortis de la sphère où Satan agit pour perdre beaucoup d'âmes. Il nous a placés dans la sphère où Dieu agit, c'est l'image du royaume de Dieu. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en Jésus-Christ notre Seigneur. On n'est pas toujours conscient de cela, c'est tout à fait d'accord. Quelquefois, notre esprit est un petit peu étriqué, et puis nous sommes au rang de ceux qui avons du mal à sortir des contingences des choses visibles. Et dès lors qu'il y a une difficulté, on se retrouve, excusez-moi, rapidement dépassé. Mais quand tu es un enfant de Dieu, certes, l'épreuve est là, mais comme je réfléchissais, c'est moi, parce que ça m'arrive de réfléchir, hein. Vous aussi? Oui, ça m'arrive de réfléchir. Et je pensais, Seigneur, tu vois, quelquefois lorsque une difficulté arrive chez l'un de tes enfants, au lieu de laisser le Saint-Esprit amener dans le cœur cette parole, vous serez d'accord avec moi, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quelquefois, nous aurions tendance à prendre ce verset pour les autres. Ah oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand nous sommes confrontés, au lieu que ça vienne dans nos cœurs, eh bien, on commence déjà à regarder l'épreuve. Pourquoi ça? On commence à hospiter. Non, non, toute chose concourt à ton bien. Vous connaissez l'apôtre Pierre? Vous le connaissez, l'apôtre Pierre? Il avait un sacré caractère, hein. Dans Jean 13, alors qu'il nous a parlé de la dernière Pâque, où notre Seigneur, sachant que l'heure est venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, la Bible nous dit que Jésus, il met le comble à son amour pour les siens qui étaient dans le monde. Et vous savez que ce à quoi consistait le comble à son amour. Il s'est déshabillé, il s'est ceint de linge, et il a pris un bassin avec de l'eau, il a commencé à laver les pieds de ses apôtres. Et lorsqu'il arrive à Pierre, Pierre a dit, « Seigneur, c'est ça que j'attendais. Ah, » Non, jamais tu me laveras les pieds. Désapprobation totale. Il aurait dû dire, « Toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. » Désapprobation totale. Jésus ne lui a pas dit, « Pierre, laisse-toi faire. » Jésus a simplement dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Il a rajouté, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point pas avec moi dans mon royaume. » Alors Pierre va passer d'une extrême à l'autre. Il dit, « C'est comme ça, Seigneur, mais non seulement les pieds, mais la tête et tout le corps. » Leçon. Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Déjà, vous êtes purs, mais non pas tous. Parce que Judas était encore à la maison. Belle leçon. Et plus tard, dans la fin du récit, il dira, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien parce que je le suis. Cependant, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Cela veut dire que si vous élargissez le champ de l'action et la pensée qui en découle, Jésus, littéralement, c'est comme s'il appliquait la parole de Dieu à leur conscience. Pour que plus tard, lorsqu'ils seraient dans le ciel, ils se souviennent de cette leçon-là et qu'ils agissent l'un à l'égard de l'autre avec le même amour que Jésus avait manifesté. Ah, nous sommes contents lorsqu'on nous lave les pieds. Hein? Après, on est frais, on est rafraîchi. On estime qu'on est pur parce qu'en ce temps-là, lorsqu'on marchait les pieds nus ou avec des sandales, les pieds ramassaient de la poussière. Il existait une règle d'hospitalité qui faisait que lorsque vous receviez un juif chez vous, les règles élémentaires de l'hospitalité, c'était de l'accueillir avec un petit bassin, vous lui lavez les pieds, après vous essuyez ses pieds avec un linge, comme ça il pouvait participer avec vous à la communion et puis prendre un repas, etc. Écoutez, demandez à M. Simon, lorsqu'il a reçu Jésus dans sa maison pour un repas. Et ce jour-là, M. Simon, il n'aurait jamais dû inviter Jésus s'il savait que Jésus sondait son cœur. Et lorsque la femme qui est venue avec un vase rempli de parfum, et par derrière, elle s'est mise aux pieds de Jésus, et elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, puis elle a versé le parfum qu'elle portait sous les pieds de Jésus, qui a fait que la maison a été remplie de parfum. Vous avez entendu quelle est l'attitude de Simon et sa réflexion? Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait, c'est une pécheresse. Simon a montré par là qu'il connaissait pas qui était Jésus de Nazareth. Vous savez ce que le maître a fait ce jour-là pour donner la leçon à Simon? Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il me semble voir Simon arriver. Ah! Le maître va s'adresser à moi. Parle, je t'écoute. Simon, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 50 deniers et l'autre devait 500 deniers. Mais comme aucun des deux ne pouvait payer la dette, il leur remit leur dette à tous les deux. Alors lequel, Simon, selon toi, l'aimera le plus? Jugement exercé pour les choses de la terre, celui à qui il a le plus remis. C'est logique. Si vous devez 50 euros à quelqu'un et l'autre 500 euros, les deux vous disent quitte la dette, C'est celui à qui il a remis le plus qui va avoir plus de reconnaissance. Eh bien, Jésus va appliquer maintenant ce qu'il vient de dire à Simon sur le plan humain, mais il va amener la leçon spirituelle. Simon, tu vois, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné un baiser, mais cette femme, elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes, elle a sué avec ses cheveux. Et puis elle a versé son parfum sur mes pieds, c'est pourquoi Simon, ses nombreux péchés sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. L'un qui invite Jésus à manger, mais dont le cœur est rempli de questionnements concernant Jésus, une qui arrive sans qu'elle ait été invitée, mais parce qu'elle a su que Jésus était là. Elle est venue directement au pied de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu la voix de la femme. Mais on sait qui elle est parce qu'elle était connue à partir de sa vie dissolue, une pécheresse, une femme pécheresse. Jésus l'a accepté, venir à ses pieds, humilité par derrière, elle pleure, c'est-à-dire elle accomplit à l'égard de Jésus ou sur Jésus tout ce que Simon n'a pas accompli. Frères et sœurs en Christ, quelquefois le Seigneur sait nous donner des leçons avec des choses banales. Mais comme il agit, on comprend très bien la leçon qu'il veut nous donner. Amen. Que Dieu soit béni. Donc la sanctification, c'est l'œuvre de Jésus dans l'Église. Et puis, pour aller plus loin, si nous regardons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 13, 2 Thessaloniciens 2, 13, donc nous avons vu le travail de Dieu qui nous sanctifie, tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons vu le travail de Jésus qui sanctifie son Église. Et regardons maintenant le troisième agent dans notre sanctification qui nous est montré dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a... Ah, nous sommes toujours sur le terrain du choix, hein? Ce que Dieu choisit, il le sanctifie. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Mais il mentionne après, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc Dieu me sanctifie, ma sanctification, c'est Dieu qui en est l'instigateur et l'auteur. Jésus me sanctifie comme étant membre de son Église. Et là, nous voyons un troisième agent qui me sanctifie. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit me sanctifie. Et en me sanctifiant, il a commencé par, dites-moi, pour me sanctifier, il a commencé par me convaincre. Ben oui, il a bien agi pour me convaincre de péché. Ben oui, il a commencé ce travail en me convaincant de péché. Il m'a convaincu de péché. Il m'a mené au pied de Jésus, repentance. Éclairé, conversion. Accompagné d'une décision, acceptation de Jésus comme sauveur. Obéissance, baptême par immersion. Et aussitôt après, régénération, né de nouveau. Tout ça, c'est le travail de Dieu par son esprit, frères et sœurs en Christ. Et celui qui en fait l'expérience, il sait bien où il en est. Donc, ma sanctification, ta sanctification, notre sanctification, le troisième agent qui en est l'instigateur, qui agit, c'est le Saint-Esprit. Un Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre 1, verset 2. Pour voir encore le travail du Saint-Esprit dans ma sanctification. 1 Pierre 1, au verset 2, même verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, mais par la sanctification de qui? Ah, de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. Pourtant, si je lis la première phrase, l'apôtre s'adresse à ceux qui sont étrangers. Ils sont étrangers. Deuxièmement, ils sont dispersés. Le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, ce sont des contrées où, à partir du lieu géographique, Dieu rappelle qu'il a aussi là des élus. Moi, je n'étais pas situé dans ces contrées-là, j'étais situé en Martinique. Mais Dieu m'avait déjà élu, comme toi, comme chacun d'entre nous. Alors, il veut nous dire ce soir, arrête de te faire du mouron quant à ta sanctification. C'est le travail du Père. C'est le travail de Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est tout un plan béni de Dieu qui se déroule pour ta vie. Et notez bien que je vous ai dit, c'est pas parce que je comprends cela que je resterai désormais les bras croisés. Au contraire, non, j'ai ma part à faire. Puisque nous avons lu dans Hébreu la liste de verbes, il y a 5 verbes, je crois, où il est montré l'exhortation pour nous diriger dans la bonne direction pour que nous fassions notre part. Mais maintenant, nous allons regarder, toujours dans la même pensée, un texte dans l'Ancien Testament. Et ce texte a un rapport ô combien bénéfique quand je comprends le travail que Dieu entreprend et ce qui va découler toujours du travail du Saint-Esprit. Exode 30, verset 22, où Dieu va donner à Moïse des directives concernant la fabrication de ce qui est défini comme l'huile d'onction sainte. Et le temps nous manquerait pour que nous puissions regarder de ça de plus près, mais si Dieu le permet un jour, nous allons nous y arrêter en profondeur et je vous assure que nous allons découvrir des merveilles. Et les merveilles que nous allons découvrir, c'est pas pour que nous puissions nous complaire, mais c'est pour que nous puissions simplement, dans la transposition spirituelle, saisir ce que Dieu veut que nous comprenions. Mais dans Exode 30, verset 22, je prends volontairement jusqu'au verset 22 pour que nous puissions arriver au verset 30 qui nous intéresse au plus haut point. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates. Donc, meilleurs aromates. Et si vous voulez regarder avec moi le verset 34, toujours dans le même chapitre, Exode 30, 34. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates. Et verset 22, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, prends. Alors, quelle différence y a-t-il entre le verset 34 et le verset 22? C'est l'adjectif meilleur. Donc, si Dieu dit meilleur, ça veut dire que ça a un sens. Mais le temps nous manquait ce soir pour y arriver parce que le sens et l'explication vont venir dans les ingrédients qui vont suivre et dans les mesures qui devaient être respectées. Qu'est-ce que c'est? Tu vas prendre 500 cycles de myrrhe. La myrrhe, ce n'est pas le myrte, hein. Donc, il y a le myrte, mais aussi la myrrhe. C'est deux choses différentes. De celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire, un hin d'huile d'olive, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tout, ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses. Tu sanctifieras ces choses et elles seront, non pas saintes, hein, mais très saintes. Donc, on comprend pourquoi, au départ, il parle de meilleurs aromates pour la composition. Puis, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Et puis, voici le verset 30 qui nous intéresse. On a vu les directives données par l'Éternel une fois que l'huile a été composée. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Après avoir donné des directives pour construire une huile sainte, selon l'art du parfumeur, ben oui, il fallait que cela soit composé selon l'art du parfumeur. Et si vous connaissez ce parfumeur, il était consacré pour l'usage du sanctuaire. Il ne touchait pas aux choses du monde, c'était consacré pour l'usage du sanctuaire. Il devait mesurer avec les mesures du sanctuaire. La Bible dit, Dieu veut nous faire comprendre que ce qu'il fait dans son église n'est pas pour le monde. Il y a des choses qui concernent les enfants de Dieu. Et dans ce cadre-là, Dieu veut nous rendre intelligents pour que nous ne soyons pas au rang de ceux qui donnent nos perles aux... Vous avez compris. Mais là où Dieu veut nous amener à comprendre, tu oindras Aaron et ses fils. Non pas tu oindras ses fils et Aaron, mais tu oindras d'abord Aaron et ses fils. Mais nous sommes sur le terrain prophétique de Jésus et de l'Église. Aaron a été oint, et après ses fils ont été oints. Et dès lors qu'ils avaient été oints, par cette huile d'onction qui a été composée, selon l'art du parfumeur, avec des mesures particulières, ils ne s'appartenaient plus à eux-mêmes. Ils étaient regardés comme saints, réservés, sanctifiés, consacrés pour Dieu. Dieu a mis en toi le Saint-Esprit. Et maintenant, en toi, son Esprit Saint, désormais, tu n'es plus regardé comme le commun des mortels, mais tu es regardé comme un enfant du Père. Séparé, sanctifié, mais surtout appartenant à l'Éternel. Et le Saint-Esprit en toi, en moi, en nous, qu'est-ce qu'il fait? Pour spécifier cette filiation, il dit « Abba, Père ». Et quand je m'adresse à mon Père, je ne lui dis pas le bon Dieu. Non, je m'adresse à lui comme mon Père. Parce que le Saint-Esprit authentifie ma filiation avec mon Père. Et laissez-moi vous dire que quand je lui dis mon Père, même s'il ne me répond pas, oui, mon fils, mais il écoute. Et quand je lui parle, je sais qu'il m'écoute. Et si ce que je lui demande est conforme à sa volonté, je crois que je possède aussi ce que je vais lui demander. Quel repos, hein? Quelle tranquillité d'esprit. Alors désormais, vous serez obligé de regarder le mot sanctification avec d'autres yeux pour ne pas vous laisser troubler dans votre esprit. Bon, allez, on va vers la conclusion, parce que je sens que si je m'écoute, je vais vous tenir jusqu'à demain matin. Non, non, pas du tout, je plaisante. Le Saint-Esprit nous sanctifie l'enfant de Dieu dans son œuvre. Et puis, il y a aussi, dans Hébreux, le chapitre 13. Hébreux 13, verset 12. Nous allons voir encore un autre agent qui nous sanctifie, qui est actif dans l'œuvre de notre sanctification. Alléluia. Vous voulez-vous que nous le prenions un petit peu plus haut, s'il vous plaît? Alors, le plus haut où on peut le prendre, c'est Hébreux 13, verset 12, qui va nous amener à la pensée, mais pour plus de clarté ou plus de compréhension, partons du verset 10, s'il vous plaît. Partons du verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire pour le souverain sacrificateur, pour le péché, sont brûlés hors du camp. Verset 12, c'est pour cela que Jésus, dites avec moi, aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien, je dois comprendre que le sang de Jésus est actif dans ma sanctification. Non seulement il purifie ma conscience des œuvres mortes, non seulement le sang de Jésus est à la base, eh bien, de mon salut, puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, mais une fois que je suis entré dans le salut, ou pour que je rentre dans le salut, le sang de Jésus, j'ai été sanctifié par le sang de Jésus. Oh, frères et sœurs en Christ, n'allez pas dire que une fois que j'ai reçu la révélation de Jésus, Dieu m'a marqué par le sang de Jésus. Non, si tu dis ça, tu te trompes, c'est spirituel. Mais si c'est spirituel, c'est pas pour cela que c'est pas réel. C'est pas réel pour les yeux de l'homme. Mais ce que je lis là, c'est spirituel, parce que Dieu le voit. Alléluia. Oui, je suis sanctifié par le sang de Jésus. Ils sont placés sous l'aspersion du sang de Christ. Et le sang de Christ, tout au long de mon pèlerinage, continue à être un élément, un argent pour me sanctifier. Et quand le malin s'approche et veut essayer de me troubler. Ah, Dieu lui dit maintenant, ce petit-là, tu ne le touches pas, parce qu'il est placé sous l'aspersion du sang de Christ. Racheté au prix du précieux sang de Jésus. Et si Dieu permet, nous allons voir, lors des temps à venir, un sujet que nous avons partagé, mais il faut revenir dessus. La valeur et la préciosité du sang de Jésus. Qu'on puisse comprendre, frères et sœurs en Christ, comment Dieu, lui, excusez-moi du thème, en ce qui concerne notre salut, Dieu est allé au-delà de tout ce que l'esprit humain peut penser. 1 Jean 1. Alors, j'ai dit 1 Jean 1, verset 7. Et puis on va tout doucement vers la fin de notre méditation, puisque ce n'est pas la peine que je vous tienne jusqu'à demain matin. Même verset 5, s'il vous plaît. Verset 5. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, mais c'est pas compliqué, nous mentons. Et en plus, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, dans la contrepartie, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et que se passe-t-il? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est une lecture qui est destinée non pas à des païens. C'est pas une lecture destinée aux païens, ça. C'est une lecture destinée aux enfants de Dieu. C'est destiné aux enfants de Dieu. Quand c'est envoyé à une église. Et celui qui en l'envoie, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, qui explique un petit peu ce qui concerne les enfants de Dieu. Petits enfants, je vous ai écrit parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et parce que vous avez vécu le malin. Je vous ai écrit, Père, car vous avez connu celui qui est dès le commencement. Trois étapes. Mais à chaque fois, c'est le travail de Dieu. Jeunes gens, vous êtes forts. Votre force spirituelle, c'est pas physique ça, c'est spirituel. Vous avez vaincu le malin. Je sais que dans la victoire de Jésus, Dieu m'a donné la victoire sur le malin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis nous allons voir le dernier agent maintenant dans notre sanctification. Ça se trouve dans Jean le chapitre 17 au verset 16. Jean 17 verset 16. Cela rentre dans la prière communément appelée la prière du souverain sacrificateur ou on l'a appelé prière sacerdotale, etc. Mais moi, j'aime bien l'appeler la prière de Jésus. Prière de Jésus qu'il adresse au Père depuis la terre vers le ciel, mais en attendant de passer par Golgotha, le tombeau, la résurrection et l'ascension. Regardez avec moi. Jean 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand Jésus sanctifie l'église, c'est pour démarquer l'église qu'il bâtit du monde des ténèbres. Et il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il continue, verset 17. Dites avec moi. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Donc ce soir, Dieu me fait comprendre, Claude, ma parole, c'est un agent qui te sanctifie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Certes, tu es envoyé dans le monde, mais Dieu t'a sanctifié. Jésus t'a sanctifié. Le Saint-Esprit te sanctifie. Jésus sanctifie l'Église. Et voici le dernier agent qui est utile dans ta sanctification. Jésus dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient, par quoi ? Sanctifiés par la vérité. Sanctifiés par la vérité. Alléluia. La vérité est un agent actif dans ma sanctification. Plus je m'attache à la vérité, dites avec moi, plus la vérité s'attache à moi. Plus la vérité devient vie en moi. Plus la vérité est un agent qui me sanctifie pour que de plus en plus je sois inébranlable, affermi, debout, combatif, persévérant, patient, alléluia, de telle manière qu'on ne peut pas faire de moi ce qu'on voudrait. Et en plus, je ne suis pas comme certains emporté à tout vent de doctrine. Parce que la vérité, c'est ma base, mon fondement. Christ est mon fondement. Et si Christ est mon fondement, je suis enraciné en Christ. Affermi par la vérité. Alors, je suis un homme debout. Je ne suis pas debout par moi-même, mais je suis debout en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, j'en connais la lecture, mais bon, ça suffira pour ce soir. Dieu nous a assez parlé. La sanctification est quelque chose d'important dans ma vie comme enfant de Dieu, mais à partir du moment que je comprends ce que Dieu veut que je saisisse, alors je possède des éléments maintenant pour avancer. Et quand je lis Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, je ne suis pas ébranlé. Sans la sanctification, laquelle nul ne verra le Seigneur. Oh, Seigneur! Non, comprends ce que Dieu veut que tu saisisses. Une fois que tu as compris, mais t'en avances. Fais en toi une application personnelle et vis ta vie de liberté en Christ. Dieu sera glorifié dans ton cœur, dans ta vie, et tu pourras maintenant fermer la bouche aux contradicteurs. Prions le Seigneur.